Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Rebonsoir à tous et à toutes, de nouveau avec vous Idrissa Sédoudia pour le second bulletin d'information de la soirée. Le président français François Hollande a inspecté samedi à N'Djamena les préparatifs de la nouvelle force militaire française dédiée à la lutte contre le terrorisme au Sahel, qui sera opérationnelle le 1er août. Selon l'AFP, M. Hollande a remercié le président Idriss Déby pour son engagement aux côtés de la France au Mali, tout en assurant qu'il n'y aura aucune concession au régime tchadien liée à l'installation de l'état-major de la nouvelle force à N'Djamena. L'opposition tchadienne craignait en échange un soutien sans faille à un régime régulièrement critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa répression. M. Déby a lui affirmé que le Tchad était un pays démocratique et appelé les Africains à prendre en charge leur propre sécurité, car l'Afrique, a-t-il dit, ne peut pas continuer à être un poids pour l'armée française. La Croix-Rouge kényane signale que des hommes armés ont ouvert le feu sur un bus et tué au moins 7 personnes. L'attaque a eu lieu, dit-elle, hier, près de Witu, une localité du comté de Lamu. Les militants somaliens d'Al-Shabaab, liés à Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque. C'était en réponse, selon eux, aux affirmations du gouvernement kényan selon lesquelles toutes les zones récemment attaquées ont été maintenant sécurisées après son déploiement de troupes. Des secouristes italiens signalent la mort par asphyxie d'au moins 19 migrants retrouvés sur un bateau au large de Lampedusa, victimes apparemment des gaz d'échappement de leur embarcation qui transportait des centaines de personnes. Les 18 étaient déjà morts et le 19e a succombé quand on le transportait à l'hôpital avec deux autres rescapés. Plus de 500 migrants sont morts en Méditerranée cette année, selon le HCR. En Ukraine, le chef du contre-espionnage affirme que Kiev a des preuves convaincantes sur le rôle de la Russie dans la destruction de l'avion de ligne malaisien par un missile solaire jeudi dans l'est de son pays, au-dessus d'une région contrôlée par les séparatistes près de la frontière russe. Toutes les 298 personnes à bord de l'avion ont été tuées. Moscou, qui n'a pas réagi aux allégations des Ukrainiens, est également accusé d'aider les rebelles à détruire les preuves sur le site de la catastrophe. Une équipe d'enquêteurs internationaux dit que les séparatistes ne leur ont donné qu'un accès limité au site. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et son homologue américain John Kerry ont convenu lors d'une conversation téléphonique aujourd'hui qu'il faut un accès au site et que pour les deux pays, il y a nécessité d'user de leur influence pour mettre un terme aux troubles en Ukraine. Troisième jour de l'invasion terrestre israélienne dans la bande de Gaza, l'armée israélienne dit avoir repoussé une attaque transfrontalière palestinienne et découvert plus de 12 tunnels débouchant en Israël. Pour leur part, des sources médicales palestiniennes signalent que 25 autres Palestiniens ont été tués dans des raids aériens et pilonnages israéliens. Selon les officiels palestiniens, au moins 325 Palestiniens ont perdu la vie depuis le 8 juillet quand Israël a augmenté ses frappes aériennes pour arrêter les attaques à la roquette contre son territoire. Une de ces roquettes a tué aujourd'hui une personne près de la ville méridionale de Dimona, annoncent les autorités israéliennes. C'est le deuxième civil à être tué en Israël depuis le début des dernières hostilités. Un de ces soldats a également péri dans un apparent tir fratricide. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se rend au Moyen-Orient pour offrir ses bons offices entre Israël et Hamas. En Irak et en bref, une série d'attentats à la bombe ont fait au moins 26 morts à Bagdad. Il s'agit là de l'une des pires flambées de violence dans la capitale depuis la prise de Mossoul par les rebelles de l'État islamique le mois dernier. Et de l'autre côté de la frontière en Syrie, et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces gouvernementales ont lancé une contre-attaque pour reprendre le champ gazier de Shahr aux mains des djihadistes de l'État islamique.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Bonjour, Nathalie Barge pour vous présenter le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, les femmes de l'Est du pays s'organisent pour affronter les prochaines élections locales. Elles organisent des séances de sensibilisation afin d'avoir toutes les chances d'être représentées à la base des institutions. Partons à la rencontre de quelques-unes de ces femmes politiques à travers un reportage de notre correspondant Primo Pascal Rudaigua, basé à Goma, capitale du Nord Kivu.
Toutes les femmes des partis politiques semblent parler le même langage à ces sujets. Léonie Mugwelo est du PPRD, parti du chef de l'État au Nord Kivu.
Au sein de l'Assemblée provinciale, nous avons qu'une seule femme députée provinciale. Parmi les 42 députés provinciaux, elle est la seule. Donc c'est un résultat négatif. Je conseillerais aux femmes de la majorité comme de l'opposition qu'elles puissent être des candidates aux élections locales.
Cette mobilisation des femmes est motivée par le fiasco qu'elles ont eu aux élections de 2006. Félix Kavira, la seule femme élue pour la députation provinciale du Nord Kivu, parle de son expérience.
C'était facile parce que j'avais une base. Et c'était facile parce que j'étais déterminée. Et c'était facile parce que je ne cédais pas aux intimidations. J'ai connu de mauvaises expériences pendant la période électorale. C'est par rapport aux leaders politiques qui nous fait venir les femmes de Kinshasa et les mettre sur la liste électorale. Une personne qui venait de faire au moins 20 ans, 30 ans à Kinshasa, même les gens de ce village l'ont oublié et commencent à se porter candidate. C'est difficile de passer.
La province du Sud Kivu a de l'avance par rapport aux autres provinces de l'Est du pays. Un réseau de femmes des partis politiques est déjà opérationnel, précise Rosette Ndatabaye de l'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe.
Ce réseau regroupe toutes les femmes membres des partis politiques. Que ces membres puissent être de la majorité ou bien de l'opposition, toutes sont réunies pour une seule cause, la cause de la femme. Parce que nous avons vu que il n'y a pas respect des droits qui protègent les femmes. Et nous nous sommes dit qu'ensemble, nous pouvons avoir un plaidoyer pour accéder à nos droits et pouvoir confronter le problème qu'il faut que nous ne puissions pas accéder à la prise de décision de la femme en RD Congo.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudaigua pour La Voix de l'Amérique.
Parole de femme.
Le Togo a l'intention de réduire le taux de pauvreté au sein de sa population en mettant en place une politique de protection sociale. Une mesure qui devrait permettre à plus de femmes assumant seules la charge de leurs enfants de s'en sortir. Des explications dans un reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Selon une étude réalisée en 2011, aucun Togolais n'a accès à la protection sociale complète. Une situation qui maintient la population dans la pauvreté. Il en résulte donc que 2 Togolais sur 3 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour amorcer une réelle croissance, les experts estiment que le gouvernement togolais doit garantir la protection sociale pour ses citoyens. Palakinyam Banyandi, directeur de la prévoyance sociale.
La protection sociale est un stabilisateur de l'économie. Et quand je prends par exemple la santé, si tout le monde bénéficie des soins de santé à moindre coût, il va de soi que tous les bénéficiaires de la chose vont libérer leur énergie pour aller vers le développement, pour produire. Et ça permet donc la croissance. Aujourd'hui, si je dépense moins pour avoir beaucoup de soins, je vais économiser.
Dans le souci de développement, en mars 2012, l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, a été mis en place. Le taux de prise en charge des prestations couvertes est d'au moins 80%. Évariste Dissaliba Ouiga, directeur du département des bénéficiaires à l'INAM.
La cible de l'INAM, c'est les agents publics en activité et à la retraite, ainsi que les membres des institutions de la République pendant leur mandat. Alors, les bénéficiaires, c'est l'agent, son conjoint et 4 enfants maximum. Les risques couverts, les risques maladie et accidents non professionnels. ainsi que la maternité, bien entendu. Voilà les risques couverts. À l'exception des soins à l'étranger, les soins de confort et tout ce qui est traitement à la suite d'une tentative de suicide.
Aujourd'hui, les statistiques s'améliorent et environ 10% des Togolais bénéficient d'une protection sociale. Mais l'une des insuffisances de l'INAM est qu'il ne prend en charge que les agents de la fonction publique, d'où la nécessité d'aller à l'extension de cette protection sociale. Et Sadina Mibafei Abalo, expert en protection sociale du Bureau international du travail BIT à Lomé.
Il y a un certain nombre de travaux, d'études qui doivent être faits pour pouvoir permettre d'avancer vers l'extension de la protection sociale aux autres secteurs d'activité. Il est extrêmement important donc d'avancer vers d'autres types de programmes qui puissent assurer la protection sociale pour tous, notamment l'assurance en santé pour tous, mais également la mise en place d'un certain nombre de programmes qui visent les populations les plus pauvres, les populations vulnérables, notamment les éléments de socle de protection sociale, à savoir les garanties pour les soins de santé essentiels, mais également les garanties de revenus minimal pour permettre aux personnes les plus vulnérables donc d'accéder aux services sociaux de base.
Pour pouvoir mobiliser des fonds pour l'extension de la protection sociale en vue d'une couverture universelle au Togo, les propositions vont dans le sens des sources de financement innovantes, notamment des taxes spécifiques sur la téléphonie mobile, sur les transferts d'argent, sur les boissons alcoolisées et sur le tabac. Kay Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
Entre parenthèses.
La lutte contre la pauvreté n'est pas gagnée et les femmes restent les principales victimes de ce fléau dans le monde, malgré quelques progrès dans certaines régions, cependant ralentis par la crise économique générale. L'Afrique subsaharienne est en retard sur les objectifs du millénaire pour le développement. Les OMD fixés par les Nations Unies en 2000 et qui doivent être réalisés d'ici l'année prochaine visent à réduire de moitié l'extrême pauvreté et la faim dans le monde. Mais en Afrique subsaharienne, la croissance démographique, les conflits et une diminution de l'aide internationale rendent improbable la réalisation à temps de nombreux objectifs. Voici au micro de Jacques Aristide, Moussa Blimpo, professeur d'économie et d'études internationales à l'Université d'Oklahoma aux États-Unis.
D'abord, c'était attendu, ces résultats-là. Il y avait beaucoup de signes que l'Afrique n'y arriverait pas. L'une des premières choses, c'est même le design des objectifs du millénaire. Donc, il n'y a personne qui est responsable de ça. Il n'y a pas un système de comptabilité qui fait qu'il y ait des fonctionnaires, par exemple, qui perdraient leur boulot si on n'y arrive pas. Donc, ça, c'est un premier problème déjà dès le départ qui indiquait qu'il y aurait des difficultés à y arriver. La deuxième chose, c'est que, bon, il y a beaucoup de croissance économique en Afrique, surtout pendant les 15 dernières années. Et bon, ça a donné beaucoup d'espoir aux gens, mais ça prend beaucoup de temps pour que cette croissance-là bénéficie aux pauvres, en fait.
Pourquoi l'Afrique demeure-t-elle à la traîne, professeur?
Il y a un débat parmi les démographes aujourd'hui qui pensent que le processus de transition démographique est très lent en Afrique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les plus gros projets aujourd'hui doivent tourner autour de l'emploi des jeunes. Et je crois même qu'il faut essayer de se départir un peu des questions de pauvreté là et chercher à résoudre les vrais problèmes dans l'économie qui consistent à employer les jeunes. Vous savez, en Afrique, nous avons un système aussi de famille étendue là. Une personne qui travaille, en fait, nourrit une bonne partie de la famille. Donc, une manière en réalité de combattre la pauvreté, c'est tout simplement de créer de l'emploi et non systématiquement de chercher où les pauvres habitent et leur apporter des dons. Donc, il y a une question de politique fondamentale même à voir au niveau du continent africain. Mais certainement que les questions de gouvernance sont toujours d'actualité. Mais il ne faut toujours pas oublier que quand même la gouvernance, bien qu'elle ait des problèmes en Afrique, elle s'est quand même améliorée considérablement depuis 20 ans.
Donc, que l'Afrique subsaharienne soit en retard sur les objectifs du millénaire n'est pas une grosse nouvelle en soi. Donc, d'après vous, il faut voir au-delà de 2015, qui était la date butoir pour réaliser ces objectifs?
Je pense qu'il faut en réalité essayer même, contempler même la possibilité de changer les objectifs justement. Parce que essayer systématiquement de combattre la pauvreté, il s'avère que ça ne date pas seulement de ces objectifs de millénaires. Les différents pays, y compris même les pays développés, ont toujours des programmes pour essayer d'aider les pauvres. Mais le problème fondamental dans toute économie, y compris en Afrique, c'est d'assurer une certaine croissance équitable et une croissance qui bénéficie à la plus grande partie de la population. Donc en Afrique actuellement, le plus gros problème devait être l'emploi des jeunes. Ça devait être le problème d'entrepreneuriat.
Moussa Blimpo est professeur d'économie et d'études internationales à l'Université d'Oklahoma aux États-Unis. La lutte contre la pauvreté est une bataille de tous les jours pour de nombreuses femmes, notamment en République démocratique du Congo. À Goma, dans le Nord Kivu, les femmes ont trouvé une formule pour éviter le chômage. Elles sont plusieurs en effet à s'installer le long des routes, sur les places des marchés et devant des boutiques pour tresser les cheveux d'autres femmes. Primo Pascal Rudaigua est allé à la rencontre de ces femmes qui travaillent sans relâche pour la survie de leur famille.
Le métier de coiffeur attire de plus en plus les femmes sans emploi dans la ville de Goma. Interrogées à ce sujet, quelques-unes d'entre elles reconnaissent qu'elles commencent par apprendre, ensuite elles se perfectionnent pour éviter le chômage.
Ce métier connaît beaucoup de profanes ces derniers temps et cela s'explique par le fait que ces femmes manquent d'occupation. Elles évitent de cette façon de tomber dans des antivaleurs. Eh bien, quand la vie devient difficile, que faire sinon créer des emplois?
Plusieurs autres femmes préfèrent s'installer le long de la route pour éviter les exigences des tenanciers des salons de coiffure.
Quand nous travaillons formellement, les tenanciers des salons de coiffure sont exigeants envers nous. L'on nous fait payer des pourcentages de l'argent produit ou carrément, l'on nous interdit d'effectuer des activités rentables. Au lieu de nous disputer pour rien, on a résolu d'aller sur la route.
Dans ce travail, elles tiennent également compte de la propreté du milieu et de la santé de leurs clientes pour éviter les maladies contagieuses à travers les objets tranchants.
Nous amassons toutes ces mèches éparpillées devant les boutiques et nous les brûlons. Pour nos matériels comme les guilles, après usage, nous la stérilisons. La lame de rasoir, on l'utilise une fois seulement. Deux fois, il y a des clientes qui refusent que nous utilisions nos matériels. Elles s'en procurent sur place et après usage, elles rentrent avec.
Les clientes sont nombreuses et apprécient la qualité du service rendu par ces femmes.
J'ai choisi cet endroit pour me faire coiffer, convaincue du travail de qualité qu'elle me rend. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Les usagers de ces matériels sont moins nombreux. La femme qui me tresse ici fait la propreté de ses peignes.
Avec ce travail de coiffure, ces femmes ne gagnent pas moins de $50 par semaine, soit $200 par mois. Ce qui constitue une bonne bourse pour la plupart d'entre elles. Goma, Primo Pascal Rudaigua, La Voix de l'Amérique.
Les nappies de Babi se mobilisent pour le retour des cheveux crépus. Pour sensibiliser les habitués aux mèches, les nappies organisent des ateliers pratiques dans des kiosques et sur la toile. Germain Dri, notre correspondant à Abidjan, les a rencontrés.
Les NAPI de Babi comptent environ 2800 membres, reçoivent en moyenne 20 demandes d'adhésion par jour et convoquent une rencontre chaque deux mois pour prodiguer des sages conseils aux femmes. Des conseils exclusivement pour des cheveux. Mariam Diaby, fondatrice de la dite structure.
Au quotidien, c'est des astuces, des conseils, partage de photos, de vidéos et tout ce qui concerne la beauté au naturel. L'objectif premier, c'est faire la femme noire, cheveux crépus. Non, tes cheveux crépus, ils sont pas compliqués à entretenir. Tu n'as pas besoin de passer par la case des frisages. On est avec les cheveux crépus. La seule chose qu'on ne sait pas faire, nous, en tant que femmes modernes, on ne sait pas entretenir nos cheveux. Les femmes au village, elles n'ont pas besoin de ça.
Pour Fleur Zébi, responsable d'un centre de conseil en soins capillaires pour cheveux crépus, l'entretien des cheveux des Africaines doit se faire autrement.
Nous n'avons pas le même type de cheveux que les personnes européennes ou les personnes asiatiques. Nous avons les cheveux les plus fragiles, donc il est important de connaître les caractéristiques de nos cheveux et ainsi nous en prendrons mieux soin dans une optique de durabilité, dans une optique de santé.
Selon Dr Begui Aïcha, cardiologue, les cheveux crépus peuvent éviter beaucoup de maladies aux Africaines.
À force de porter ces accessoires-là,
des frisages,
elles commencent à développer des dégarnitures au niveau de la lisière, c'est-à-dire la zone frontale qui part d'une oreille à l'autre. Et ça, vraiment, ça devient inquiétant, ça devient dramatique. Je pense que cette mode des années 60 allait certainement perdurer. Les employeurs, dans leur travail, elles sont confrontées à beaucoup de difficultés parce que, le cheveu crépus n'étant pas encore dans les mœurs.
Si. Au niveau des employeurs, les cheveux naturels constituent un handicap. Dr Begui, elle, a réussi à convaincre ses supérieurs hiérarchiques.
Moi, j'ai eu que des compliments, même de mes patrons. Il y a même un professeur qui, après avoir vu mes cheveux, qui a dit que lui, il va obliger sa femme à arrêter de se défriser.
Même son de cloche pour Mariam Diaby.
Il suffit que les gens vous voient passer avec vos cheveux. Ah, mais tes cheveux, ils sont trop beaux. Comment tu fais? Il faut que tu me montres comment tu fais. Moi, ma réponse est... je les laisse pousser, je les entretiens, je les lave, je fais mes soins, c'est tout. Mes deux produits les plus utilisés, c'est l'huile de coco et le beurre de karité. Donc, de manière économique, normalement, on gagne.
Fleur Zébi estime qu'entre la santé et la beauté, il n'y a pas de choix à faire.
Il ne faut pas transiger entre la santé et la beauté. Il n'y a pas de choix en fait à faire. Il faut penser santé et la beauté vient après.
Pour la fondatrice de NAPI de Babi, les femmes noires de l'époque étaient belles avec les cheveux crépus.
Il suffit qu'on ressorte les photos de nos mamans, là, elles ont tout un joli afro, tout rond. Moi, ça me fait particulièrement revenir, ressembler à ma mère il y a 30 ans, mais ça me va.
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
Au Sénégal, certaines femmes sont accusées de porter malheur, des croyances qui perdurent de siècle en siècle. Notre correspondante à Dakar, Diana Basseidouba, a rencontré Fama Sarr, qui a vu sa vie basculer juste après la mort de son époux.
Je ne trouve même pas les mots, parce que j'ai vécu un calvaire.
Le 5 juillet 2005, sa vie bascule. Son mari Mustapha Sarr, un jeune pêcheur, vient d'être tué lors des incidents entre agents des îles de la Madeleine. Son époux est mort 2 mois après leur union. Cette fille, qui pourtant avait entamé des études supérieures, a été stigmatisée. Et jusqu'à présent, elle ne s'en remet pas.
Et c'est quelque chose de vraiment difficile. Depuis lors, ma vie est instable, j'ai pas une vie normale. Ma famille me stigmatisait, idem pour la famille de mon mari. Les gens me regardaient bizarrement. J'étais seule, je me sentais vraiment seule et je le ressens jusqu'à présent là. C'est vraiment difficile.
Dans son entourage immédiat, personne n'a voulu donner son point de vue sur la vie de celle que l'on verse désormais dans la catégorie de femmes maudites. Mais des Dakarois interrogés sur la question avancent leur point de vue. Barthélémy Diouf, un monsieur issu de l'ethnie sérère.
Chez nous, en pays sérère, il y a de ces femmes. On nous disait que quand tu maries, par exemple, une femme qui a de gros yeux, elle peut être une femme qui pourrait te faire réussir, t'ouvrir le bonheur, ainsi de suite. Par contre, si tu as une femme avec des yeux tout petits, une bouche plutôt fermée, on nous conseille souvent de nous méfier de ces femmes-là.
Fatim Ouattara et Makumba, tous deux n'y croient pas.
Parce que je ne peux pas concevoir qu'une personne naisse
avec de la malchance et puis toute sa vie reste malchanceuse. Ni qu'une personne porte la poisse à une autre personne, non, moi je trouve ça inconcevable.
Ce sont des croyances sociales qui ne reposent sur aucune logique, ni humaine, ni même religieuse. Les gens qui le font ne le font pas, moi je crois, par méchanceté. Ils le font parce que c'est une croyance. Leurs grands-parents, leurs parents leur ont dit, leurs parents, les parents des parents de leurs parents ont pensé cela. C'est parce que ce sont des croyances qui sont là. Et je crois qu'on doit apprendre à dépasser.
Dans notre pays où 95% sont musulmans, ces croyances culturelles existent bel et bien. Ces femmes, victimes de la société, souffrent en silence et peinent à se reconstruire. Diana Bassé-Douba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
La protection de l'environnement est devenue une priorité universelle. Mais le réflexe du recyclage n'est pas automatique, sauf peut-être sur le continent africain, où l'on est habitué à ne pas jeter. Ne pas jeter, là est un noble geste qui prend tout son sens dans la lutte contre le gaspillage. Cette lutte bien connue de l'indigent, de l'enfant bricolant son jouet fait maison, de la mère de famille lavant soigneusement un récipient précieux pour la cuisine. Ainsi, dans le cadre d'un projet du Fonds pour l'environnement mondial, une association togolaise se propose de recycler les déchets électriques et électroniques. Kayi Lawson à Lomé nous en dit plus dans son reportage. Une histoire qui pourrait inspirer d'autres défenseurs des droits de l'environnement. Environnement dont nous sommes partie intégrante.
Le Togo produit près d'1 million de tonnes de déchets par an et parmi ces déchets figurent ceux dits électroniques. Retrouver des plaquettes d'ordinateurs, des écrans cathodiques ou encore des squelettes de vieux postes radio sur des dépotoirs allumés n'a rien d'étonnant, puisque c'est souvent leur point de chute, nous dit Rigobert Lenguema, réparateur d'appareils électroniques.
C'est un grand problème. C'est vrai que on se débarrasse autant qu'on peut. Ça se jette partout là. Vous remarquez un peu sur les dépotoirs, parfois on les jette partout. Je ne sais pas comment faire pour gérer tout ça là, pouvoir le garder où on n'a pas de magasin. Donc on ne peut pas stocker tout le temps.
Ces appareils en fin de vie jetés dans la nature polluent l'environnement. L'association Action sociale pour le développement intégral ASDI veut protéger l'environnement mais aussi la santé humaine en initiant un projet de recyclage. Koku Muntu Chamsi, directeur exécutif d'ASDI.
Nous les collectons, nous les recyclons parce que c'est des déchets qui contiennent des substances hautement dangereuses pour l'environnement. Ces déchets, une fois dans l'environnement, provoquent des catastrophes. Ça provoque même des fois de la stérilité du sol. Nous prenons tous les déchets, nous les démantelons. Et la partie hautement dangereuse dont nous parlons et toutes les parties qui ne peuvent pas être recyclées ici et qui n'ont pas de valeur seront convoyées chez notre partenaire, une ONG belge, qui les recyclera dans ses installations.
Les appareils électroniques hors d'usage sont dangereux et nuisibles à la santé. C'est pourquoi l'un des volets de ce projet d'ASDI est la sensibilisation. Emmanuel Yao est zone nationale du projet.
Ce projet consiste à sensibiliser notre population aux méfaits des déchets que nous stockons chez nous. Il y a des gens qui ont leur télé depuis 90, qui l'ont toujours sous leur lit. Le danger, c'est qu'il peut y avoir fuite de gaz. Quand par exemple vous gardez l'écran cathodique chez vous et l'écran se casse sans que vous le sachiez, il y a fuite de gaz, vous le respirez sans le savoir. Un jour vous allez vous en rendre compte, vous allez vous en débarrasser. Mais c'est tard que les problèmes vont commencer. Alors on parlera du cancer, on parlera de la tension, les retards de croissance, des troubles comportementaux, voilà, des dangers que nous courons en gardant ces choses chez nous.
Pour arriver au résultat du projet, un partenariat est établi entre l'association Action sociale pour le développement intégral et les électroniciens. Nous retrouvons le coordonnateur du projet, Emmanuel Yao Ezan.
Dès que l'entreprise ou le réparateur sait que ça c'est déchet pour lui, il nous appelle et nous, on vient chercher. C'est un partenariat gagnant-gagnant, d'autant plus que nous ne venons pas chercher les déchets gratuitement, mais que nous négocions avec les réparateurs parce que nous sommes rendus compte que les gens attachent tellement de valeur à leurs choses que quand vous allez pour leur expliquer, il faut les encourager à continuer à nous faire confiance pour nous céder les déchets. Donc le réparateur, nous lui donnons un peu d'argent quand même pour l'encourager. Donc ça, déjà, ça rassure.
C'est environ 41 000 dollars américains que le Fonds pour l'environnement mondial a mis à la disposition de l'association Action sociale pour le développement intégral pour débarrasser Lomé des déchets électroniques sur les deux prochaines années. Kailasson Loumé pour La Voix de l'Amérique.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky.